VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. N'Djamena s'inquiète des rébellions qui s'agitent à nouveau aux frontières du Tchad où depuis plusieurs mois, des groupes politico-militaires au sud de la Libye et à l'ouest du Soudan tente de se fédérer pour renverser le président Idriss Déby Itno. C'est l'AFP qui donne la nouvelle. Officiellement, tout va bien. Le ministre de la Défense tchadien, contacté par l'agence France-Presse, assure n'avoir mis en place aucun renforcement militaire spécifique ces derniers mois et que l'armée tchadienne continue ses efforts aux frontières. Arrivé au pouvoir par les armes en 1990, Idriss Déby garde en tête la guerre de 2005-2010 dans les confins de l'Est et surtout le raid rebelle de février 2008 quand une colonne armée venue là encore de l'Est avait atteint les faubourgs de N'Djamena et manqué de le renverser. Le nouvel homme fort du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, doit prendre officiellement les rênes du pays demain vendredi. L'ex-vice-président a promis des emplois et annonce une nouvelle ère de démocratie. Emmerson Mnangagwa, âgé de 75 ans, amorce une succession délicate au président Robert Mugabe, qui laisse après 37 ans de règne sans partage un pays exsangue. Au Cameroun, l'opinion publique s'est approprié le sujet de la démission du président zimbabwéen Robert Mugabe. Et pour cause, Paul Biya, son homologue camerounais, cumule déjà 35 ans au pouvoir, soit 2 ans de moins que Robert Mugabe. C'était évident mercredi dans les rues de Yaoundé, les colonnes des journaux, les programmes de radio et les réseaux sociaux, comme a pu le constater notre correspondant sur place, Emmanuel Jules Ntap.
Après la démission de Robert Mugabe, certains Camerounais entrevoient aussi un probable scénario pour leur président. Sur les réseaux sociaux, les avis sont sans équivoque là-dessus. Des réactions qui ne surprennent guère, Serge Aimé Bikoy, sociologue, enseignant à l'Institut Scientifique Supérieur à Yaoundé.
Dans l'imaginaire individuel et collectif, il y a véritablement ce signe que l'on voudrait également générer au Cameroun. Que lorsque quelqu'un a fait 30, 32, 33, 34, 35 ans au pouvoir, il y a des signes de lassitude qui sont davantage constatés. Et ça incite véritablement le peuple qui est aujourd'hui renseigné sur ce qui se passe ailleurs, de pouvoir voir comment ça peut également être théâtralisé ici au Cameroun.
Le Cameroun si proche du Zimbabwe, Paul Biya, démissionnaire comme Mugabe, tout le monde ne partage pas cet avis. À chaque nation son histoire, soutient Jean-Baptiste, un jeune militant du parti au pouvoir.
Le Zimbabwe a ses réalités, le Cameroun a également sa part des réalités. Paul Biya du Cameroun n'est pas Robert Mugabe. La femme du président, Paul Biya, n'est pas la femme de Robert Mugabe. Au Cameroun, l'armée ne s'implique pas dans les histoires politiques.
Mais sur les chaînes de radio urbaine à Yaoundé ce jour, la démission de Robert Mugabe déchaîne les passions. Illustration avec ce programme interactif sur Magic FM à Yaoundé.
Nous avons à la tête de nos États des petits despotes qui organisent des pseudo-élections pour se cramponner au pouvoir. Dans un pays où on vous dit qu'un président a été élu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, c'est tout sauf une élection.
Au marché central de Yaoundé, le départ de Mugabe après 37 ans de règne alimente les conversations auprès des commerçants qui s'intéressent à la politique. Et chacun y va de son inspiration.
Ils doivent prendre l'exemple de celui-là qui était le plus vieux au pouvoir.
Comme qui, par exemple, selon vous?
On ne cite pas les contemporains.
Que tout le monde installe dans son pays la démocratie 5 ans renouvelable une fois. Si tu as fait des 5 ans, si tu n'as pas bien géré, on te met à côté.
Au cours d'une conférence de presse en juillet 2015 au Palais de l'Unité à Yaoundé, lors de la visite de François Hollande au Cameroun, Paul Biya semblait narguer ses détracteurs sur sa longévité au pouvoir.
Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut.
Le 6 novembre dernier, cela faisait 35 ans que Paul Biya accédait au pouvoir et personne ne sait si, à 86 ans, il se présentera ou pas à la prochaine élection présidentielle prévue en octobre 2018. Yaoundé, Emmanuel Jelunta, VOA Afrique.
En Guinée, le parquet a demandé mercredi à des syndicalistes de l'enseignement d'arrêter leur mouvement de grève lancé le 13 novembre, émaillé de manifestations violentes. Le calme était revenu hier dans les rues de la capitale, Conakry. Selon un correspondant de l'agence France Presse, après 2 jours de heurts entre jeunes manifestants et forces de l'ordre qui ont coûté la vie à 2 adolescents lundi et mardi, Mohamed Bangoura du syndicat libre des enseignants et chercheur de la Guinée, explique les revendications des enseignants guinéens.
Bien, nous avons trois points de revendication dans notre avis de grève. Le premier, c'est la suspension sans délai des camarades Abubakar Suma et de Kadia Touba. Ensuite, le maintien de la valeur du point de vue à 1030 et son paiement intégral à la fin de ce mois de novembre 2017. Et pour troisième point, le salaire minimum de base pour tout enseignant de la République de Guinée à 8 millions selon l'article 100 du statut particulier de l'éducation.
Mohamed Bangoura du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Les Algériens ont commencé à se rendre aux urnes aujourd'hui sans enthousiasme apparent pour désigner leurs élus communaux et départementaux à l'issue d'une campagne atone reflétant la morosité économique et sociale. Pour les 22 millions d'électeurs appelés à se prononcer, les bureaux ont ouvert à 7h GMT. Le nouvel envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, l'ex-président allemand Urs Kohler, s'est dit encouragé mercredi après une réunion à huis clos du Conseil de sécurité à qui il a décrit sa première tournée dans la région. Le président en exercice du Conseil de sécurité en novembre, l'ambassadeur italien Sebastiano Cardi, a ensuite lu des éléments à la presse soulignant le soutien de ses membres aux démarches de l'envoyé spécial.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À Washington, il est 6h06. Les Américains célèbrent aujourd'hui la Thanksgiving, la journée d'action de grâce au cours de laquelle famille et amis se réunissent autour de la dinde traditionnelle. La signification de cette fête avec des membres de la diaspora africaine aux États-Unis.
Salut, je m'appelle Étienne Yonli. Pour moi, Thanksgiving, c'est au fait une fête de reconnaissance envers le Créateur. La première fois que j'ai pris connaissance avec cette fête, c'était à Ouagadougou avec des amis américains et chacun devait à tour de rôle dire il était reconnaissant de quoi. La famille, les gens participent et le jour, généralement, c'est le papa qui coupe le dindon et on partage les plats succulents. Les gens sont vraiment contents. C'est vraiment magnifique.
Je suis Safia Touba. Thanksgiving, pour moi, c'est d'abord une fête américaine, c'est-à-dire une occasion de passer du temps avec sa famille et ses amis et en même temps remercier cette dame de faire partie de ta vie, de leur soutien. En fait, ce n'est pas une fête commerciale, comme c'est une fête de retrouvailles. Et le plus important, c'est ça.
Je m'appelle Mamadou Ba. On célèbre la fête de Thanksgiving souvent avec les amis, en famille. Et puis on se retrouve, on mange, on discute. Puis des fois, on va chez des amis américains, comme chaque année. C'est une très bonne tradition parce que ça nous rappelle les fêtes de chez nous, comme la fête de Tabaski.
La diaspora africaine qui parle donc de la fête de la Thanksgiving qui a lieu aujourd'hui. L'avalanche d'allégations de harcèlement sexuel qui secoue Hollywood, les médias américains et d'autres pans de la société à l'étranger ne fait que commencer, estime dans un entretien à l'AFP la responsable de la condition féminine à l'ONU, Fumzile Mlambo Nguka, l'ancienne vice-présidente sud-africaine qui défend l'égalité des sexes à l'ONU depuis 2013. Considère dans le même temps que le point de basculement vers un changement radical de comportement n'a pas encore été atteint. Washington hausse le ton à propos de la crise des Rohingyas en Birmanie. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a qualifié de nettoyage ethnique la violence contre la minorité musulmane après ce qu'il a appelé dans un communiqué une analyse attentive et approfondie des faits disponibles. Les officiels américains enquêtent depuis le début sur les raisons des attaques qui ont tué des centaines de Rohingyas et forcé plus de 600 000 autres à se réfugier au Bangladesh. C'est la première fois que le département d'État américain parle de nettoyage ethnique en Birmanie. L'Irak a lancé aujourd'hui dans le désert occidental l'ultime opération militaire pour éliminer les dernières poches où sont retranchés les djihadistes du groupe État islamique dans le pays. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi avait indiqué mardi qu'il refusait d'annoncer la défaite de l'État islamique avant d'avoir nettoyé les poches djihadistes qui subsistent dans les zones désertiques du pays. Jean-Roger Billon à ce micro. Point final à ce journal. Bonne fête de la Thanksgiving à tous ceux qui la célèbrent. Et merci pour votre fidélité à VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.